Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans le cours de survol de l'Ancien Testament. Un peu de fébrilité pour moi dans l'air, on dirait, ce matin. À toutes les fois qu'on commence un nouveau cours, il y a une petite nervosité qui s'installe, le temps de s'adapter, d'être à l'aise avec le groupe et tout ça. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste vous mentionner qu'il y a des notes de cours qui sont disponibles sur la table à l'arrière. Puis aussi, une petite collation pour ceux qui le veulent. Mon épouse a préparé ça pour vous. Elle a cette belle habitude-là de préparer la petite collation pour ma classe. Donc, si vous voulez, vous pouvez la prendre à l'arrière. Donc, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans le psaume 19. Avant d'aller dans un mot de prière et d'aller plonger dans le cours, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire ce psaume. Le psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ce psaume nous parle de la grandeur de notre Dieu, que Dieu se révèle à nous, que Dieu manifeste sa grandeur dans sa création. On appelle ça en théologie la révélation générale. Dieu se manifeste, il manifeste sa gloire, sa grandeur dans la création. Ce n'est pas Dieu qu'on voit dans la création, mais c'est sa gloire. La création nous parle de la gloire de Dieu. Et lorsque certainement, vous avez déjà vu un coucher de soleil. Ça m'est arrivé une fois, j'étais sur le bord du Pacifique, puis on voit le soleil descendre quasiment à vue d'œil. Qui n'a jamais été impressionné par la beauté d'un coucher de soleil? Et lorsque je regarde ça, j'en demeure pas juste là à dire « Wow, c'est beau, quel beau coucher de soleil! » Dans mon cœur, par la grâce de Dieu, je suis capable de dire « Dieu, tu manifestes ta gloire. » À travers ce coucher de soleil-là, il est si beau. J'ai juste hâte de te voir, toi, pour savoir combien tu es magnifique. Ça fait juste nous parler un peu de la gloire de Dieu. Quand on va le voir, ça va être 100 000 fois ou des millions de fois plus beau que des couchers de soleil. Sa gloire va nous impressionner. Et une chose que le Seigneur a fait dans sa grâce aussi, c'est qu'il nous a donné sa révélation spéciale, sa révélation dans sa parole. Et on voit dans les versets 8 à 12 en particulier, tout combien la parole de Dieu, les lois de l'Éternel, que l'Éternel a données dans l'Ancien Testament et qu'on a aujourd'hui dans la révélation du Nouveau Testament aussi, combien elles sont merveilleuses. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et au verset 12, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Et si on veut plonger nos regards dans la parole, si on veut faire ce survol de l'Ancien Testament, on va aller faire un survol pour se donner une idée de Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? Si on veut ça, c'est parce qu'on veut apprendre ensemble à mieux comprendre cette parole-là, cette loi-là qui est parfaite, puis qui restaure nos cœurs, puis qui nous donne les instructions, parce qu'il y a une grande récompense pour ceux qui observent la parole de Dieu. Et à la fin, le psalmiste dit, « Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. T'es l'Éternel, t'es mon Dieu, t'es mon rocher, t'es mon rédempteur. » J'espère que c'est avec cette attitude-là que vous venez ce matin. Avec une attitude désireuse d'apprendre de Dieu dans sa révélation, dans sa parole, mais aussi avec un cœur disposé qui dit, « Seigneur, je t'aime. Je veux t'honorer. Je veux apprendre de toi. Puis je veux que mon cœur t'aime, puis je veux que tu le saches. Puis je viens ici, pas pour entendre Alexandre, mais je viens ici parce que je veux t'entendre toi. Je veux entendre ta parole me parler. Je veux entendre ta parole pour qu'elle puisse transformer mon cœur, pour que je puisse t'aimer encore plus. L'Éternel, c'est notre rocher. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Puis on veut cultiver ensemble notre relation avec Dieu en plongeant nos regards dans sa parole. Et je ne m'attarderai pas plus longtemps sur le psaume 19. On va plonger dans le survol de l'Ancien Testament, mais juste avant, je vais demander au Seigneur sa grâce, puis on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui n'est pas resté, qui n'est pas demeuré en silence. Seigneur, les gens autour de nous, dans notre culture, de moins en moins, croient à l'existence d'un Dieu créateur qui a créé toutes choses. De moins en moins, Seigneur, on voit cette crainte de Dieu, au moins la base d'une crainte de Dieu dans notre société. Mais Seigneur, on veut, malgré dans la culture et l'époque dans laquelle on vit, nous, on t'a connu parce que tu t'es révélé à nous. Tu t'es révélé à nous dans ta parole, puis en Jésus-Christ. Puis on a connu, Seigneur, que tu étais vrai. On a connu que tu étais bon. On a connu ton amour. Puis un jour, alors que tu as touché notre cœur, Seigneur, on a décidé, en notre cœur, de te suivre. Et Seigneur, ce matin, on vient ici, devant toi, pour t'entendre, toi. Viens faire silence en nos cœurs. Viens apaiser nos craintes, nos pensées. Viens panser nos blessures, nos souffrances, Seigneur, par ta parole. Qu'on puisse ressortir d'ici ensemble, Seigneur, édifié, avec un zèle renouvelé pour toi, de vivre pour toi, de vivre pour ta gloire et de proclamer ta grandeur autour de nous. Seigneur, viens m'accompagner dans tout ce cours, viens nous accompagner ensemble dans cette session. Mais Seigneur, ma prière, c'est que je puisse être un messager digne de ta parole, Seigneur, que tu puisses faire de moi un ouvrier qui se cache derrière toi. C'est toi que, Seigneur, je veux simplement que tu puisses parler à ton peuple. Et Seigneur, qu'à travers moi, Seigneur, tu puisses permettre à ton peuple d'entendre tes paroles, de les comprendre avec leur cœur et de pouvoir vivre pour toi. C'est notre désir, Seigneur. Reçois les sentiments, les désirs de nos cœurs, parce que tu le mérites. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'avais prévu de... je vous ai remis dans les notes de cours un plan. Donc, c'est juste de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on va faire cette session ici. La raison pour ça, c'est juste... Moi, personnellement, quand je m'en vais à quelque part ou que je fais un voyage, on a voyagé beaucoup dans les dernières années, on restait aux États-Unis, on venait faire un tour au Québec, puis on prenait la route, des fois 15, 16, 16 heures de route. Puis moi, j'aime ça savoir où c'est je m'en vais. Par quelle route je vais passer pour me rendre à ma destination? Et puis, des fois, la veille ou un peu avant, je planifie mon trajet. Des fois, il fallait faire le trajet en deux jours. Bon, où on va arrêter pour dormir? Où on va arrêter pour manger? Et puis, je planifie mes choses. Puis, j'aime ça savoir où on s'en va. Donc, la première rencontre, entre autres, mon but, c'est ça. C'est d'un peu vous expliquer, de vous donner une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on va faire ensemble cette session. Et puis, après ça, d'aller peut-être dans des éléments un peu plus pour répondre à certaines questions que des fois les gens peuvent avoir. Et puis, vous allez le voir, là, dans 2 semaines, on va commencer à plonger un peu plus dans le texte des Écritures. Mais je trouvais ça bon de peut-être donner quelques éléments préparatifs de base pour nous aider à arriver, lorsqu'on va arriver avec le texte, puis à plonger dans le texte biblique, qu'on puisse avoir des outils qui nous aident à comprendre, à mieux interpréter la parole de Dieu, puis surtout les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, le cours, c'est une introduction, en fait, c'est une première partie, parce que le cours est développé, le survol de l'Ancien Testament est développé sur deux sessions. Donc, dans cette session, on va faire une introduction au livre de la loi, qu'on appelle le Pentateuque, puis au livre historique de l'Ancien Testament. Donc, on va couvrir les livres de la Genèse jusqu'à Esther. Puis, le but, c'est pas de plonger dans tous les détails. On n'aura pas le temps en une session de tout puiser tous les détails de ces livres-là, mais plutôt d'avoir une vue d'ensemble qui nous permet de comprendre le message et les contenus, le contenu important de chaque livre. Et donc, le but, c'est de présenter le message de chacun des livres et puis leur place. Quel rôle chaque livre joue dans la révélation, si je pourrais dire progressive, du plan rédempteur de Dieu. Donc, on veut prendre chacun des livres et comprendre c'est quoi son message et comment ce livre-là est lié à l'ensemble de la révélation de Dieu. Donc, on va aller ensemble dans des passages pour ça. Et donc, ce qu'on veut dans le cours, c'est présenter une introduction générale de l'origine des textes. On veut comprendre c'est qui l'auteur, à quel moment ça a été écrit. Souvent, de comprendre à quel moment ça a été écrit, ça nous aide à avoir une perspective de à qui ça s'adressait. Si je vous donne l'exemple, je vais juste donner rapidement l'exemple du livre des Chroniques. Les Chroniques nous raconte l'histoire d'Israël, puis des fois, on va lire les rois, le livre des rois, puis après ça, on va tomber dans les Chroniques, puis on dit, bien, c'est la même histoire, finalement, on dirait qu'il n'y a pas de différence, même il y a des passages que ça nous raconte exactement la même histoire. C'est quoi le lien entre les deux? Mais lorsqu'on considère à quel moment a été écrit le livre des Chroniques, ça nous aide à comprendre à qui ça s'adressait. Et puis, on va le voir ensemble, mais un peu plus loin, mais le livre des Chroniques, entre autres, s'adressait au peuple de Dieu qui revenait de l'exil à Babylone, pour ceux qui sont familiers un peu avec l'histoire d'Israël. Et donc, ça s'adressait à un peuple qui revient à Jérusalem. Et puis, on leur raconte l'histoire d'Israël, comment c'était glorieux quand le peuple marchait avec Dieu. Et puis, lorsque le peuple marchait avec Dieu, Dieu était avec eux, il y avait la bénédiction. Et c'était comme ça a été écrit pour un encouragement, pour dire « marchons avec Dieu maintenant ». On a été punis, Dieu nous a punis, il nous a amenés en exil. Mais maintenant, on veut marcher pour Dieu, parce que regardez comment Dieu a béni dans le passé. Donc, juste de savoir ça, c'est comme, ah, ça amène une autre perspective au livre des Chroniques. Et puis, c'est important de saisir ça. Donc, c'est des détails qu'on a besoin des fois pour mieux comprendre le texte. On veut fournir des notions de base pour interpréter correctement l'Ancien Testament. Lorsque je le lis, de connaître certaines choses, comme les genres littéraires. Si je lis les psaumes, qui sont un poème, la poésie hébraïque, ce ne sera pas la même chose que quand je lis, par exemple, un texte narratif dans les Rois ou dans Samuel. Donc, d'avoir ces éléments-là qui nous aident à distinguer à quel genre littéraire je fais affaire, ça m'aide à mieux comprendre. On veut approfondir aussi le message théologique, dans le sens... Qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même dans l'Ancien Testament, mais aussi qu'est-ce qu'il révèle sur son plan rédempteur. Là, j'ai mis des grands mots, le message théologique et christologique. Mais le message christologique, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, en quelque sorte, annonce la venue d'un Messie, annonce le plan rédempteur de Dieu. On le voit déjà apparaître dans l'Ancien Testament et progressivement, ça devient plus clair. Et on est capable, avec l'Ancien Testament, de voir, hey, Dieu avait annoncé ça, Dieu avait prédit ça, Dieu avait promis ça à Israël. Donc, c'est de voir, en regardant les textes, qu'est-ce que Dieu me révèle sur lui-même et qu'est-ce que Dieu me révèle sur son plan rédempteur. Ensuite de ça, on veut placer certains moments importants dans l'histoire du salut, de la création jusqu'à la venue de Jésus. Des fois, de juste avoir comme les événements marquants. Oh, il y a eu la création, après ça, il y a eu la chute. Le déluge. Tous ces éléments-là m'aident à placer aussi puis à mieux comprendre où se situe chacun des passages. Puis finalement, évidemment, ce qu'on veut, c'est considérer les enseignements de l'Ancien Testament pour en tirer des instructions qu'on va appliquer dans nos vies. Et on va voir ça un petit peu plus aujourd'hui, même certains passages qui nous montrent À quoi c'est utile, ça, l'Ancien Testament? Donc, vous avez un calendrier, vous avez le parcours que nous allons prendre pendant la session. Dieu voulant, on va suivre ce plan-là. Et puis, ça va nous permettre, pendant la session, de passer à travers le Pentateuque et les livres historiques. Donc, comme je le disais, j'ai décidé de commencer avec quelques questions préliminaire pour nous aider à approcher l'Ancien Testament, pour nous aider à comprendre sa place. Et une des questions que je pense qu'il est nécessaire de répondre, c'est « Mais pourquoi je dois étudier l'Ancien Testament? À quoi ça me sert, ça? » Moi, je suis un chrétien de la Nouvelle Alliance. J'ai cru en Jésus, l'Ancien Testament, je sais, ça parlait de Jésus, mais là, Jésus est arrivé, Jésus a tout accompli, puis dans le fond, l'Ancien Testament, c'était pour ceux qui étaient là avant. Pour moi, je me réfère au Nouveau Testament, c'est plus facile à comprendre, puis l'Ancien, des fois, c'est un peu plus difficile. Fait que, on a peut-être tendance, des fois, à dire, on va négliger cette partie-là pour comme se concentrer sur ce qui nous concerne un peu plus pour l'époque dans laquelle on vit. Mais chacun a un peu son approche par rapport à l'Ancien Testament. Je pense que tout le monde pourrait dire qu'ils ont déjà commencé un plan de lecture de la Bible dans un an. Puis là, ils ont dit, hey, cette année, moi, je lis la Bible en un an, je passe d'un couvert à l'autre. Puis là, ils arrivent dans le Lévitique, après, rendu au mois de mars, puis là, ouf! Là, c'est difficile. Puis là, ils se découragent. Puis là, ils disent, je pense finalement, je vais aller lire le psaume ou je vais aller lire le Nouveau Testament, puis je vais, c'est trop compliqué pour moi. Mais il y a toutes sortes de raisons, des fois, qui nous font qu'on se décourage. Pas nécessairement juste parce que l'Ancien Testament est difficile. Mais il peut y avoir, des fois, des choses qui on voit des difficultés dans la compréhension de l'Ancien Testament. Puis je voulais vous donner un peu l'occasion de partager. Vous, quand vous approchez l'Ancien Testament, y a-t-il des difficultés qui surviennent dans votre esprit, des choses que vous avez de la difficulté à comprendre, peut-être des attentes que vous avez avec le cours? Dire, j'aimerais ça, moi, qu'on réponde à cette question-là. Y a des affaires que je ne suis pas à l'aise ou des affaires... Y a-t-il des choses? Quelles sont les difficultés que vous avez lorsque vous approchez l'Ancien Testament? Je vais répéter pour ceux qui nous suivent en ligne. À main levée, y a-t-il des difficultés? Oui, Camille? Oui. Oui. Sévère. Oui. Oui. Oui, OK. Donc, ce que Camille remarque, c'est dans souvent on entend que les gens ont de la difficulté parce qu'ils lisent l'Ancien Testament, ils voient des guerres. Dieu commande au peuple d'Israël d'exterminer les nations, on va même tuer des femmes, tuer des enfants. Et ça donne une image d'un Dieu sévère. Puis, ce Dieu-là, je veux rien savoir de ce Dieu-là. Moi, ce n'est pas un Dieu de même que je veux. Et donc, une difficulté des fois pour les gens de comprendre, mais qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu est en train de révéler à travers ça? Donc, ça, c'est une difficulté d'autre. Peut-être que vous avez d'autres difficultés dans votre lecture personnelle ou dans votre compréhension de l'Ancien Testament. Ne soyez pas gênés. Donc, c'est facile pour tout le monde. Ah, OK, c'est bon, Monsieur Lapointe.
Ce qui m'ennuie plus qu'autre chose, c'est la répétitivité.
Oui. Oui.
Bon, je sais qu'Israël est un peuple pour être.
Oui. Mais
il y a des fois,
oui, c'est ça. OK, donc c'est très répétitif. Il y a des choses qui se répètent beaucoup. On voit la même chose se reproduire. Par exemple, je pense au livre des juges, entre autres. Là, tu sais, on voit tout le temps un juge qui arrive, le peuple tombe, le peuple se repent, Dieu donne un juge. C'est comme, c'est répétitif. Il y a des choses que, c'est comme, ils vont-tu comprendre à un moment donné ce que Dieu essaie de leur expliquer? C'est bon, ça, c'est des difficultés qui peuvent survenir. Une autre, peut-être, pour... Oui, Miguel.
En tant qu'occidental, oui. C'est un monde qui est très loin
de mon quotidien. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça s'adresse, dans le fond, l'Ancien Testament s'adresse, entre autres, à un peuple qui est très éloigné, tu sais, qui vit au Moyen-Orient. Et puis, en plus, ça fait comme 4000 ans de ça. que c'est quoi la pertinence pour moi aujourd'hui, 21e siècle, 2019, c'est quoi le point, là? C'est quoi j'ai à apprendre de ce... Ça ne s'adressait même pas à moi nécessairement, certains peuvent penser ça, ça ne s'adressait pas à moi. C'est quoi la pertinence de ça? Donc, je pense que c'est bon, c'est des choses qu'on va voir ensemble, qu'on va couvrir ensemble tout au long de la session. Puis ce matin, ce que je voulais, c'est simplement vous donner... quatre raisons, le problème d'avoir plus, je suis en train de réfléchir à ça, je l'ai préparé, j'ai dit avec le temps que j'ai, je vais peut-être en couvrir quatre, cinq, mais je repensais à ça, je disais, hey, je pourrais rajouter ça. Mais on va faire un résumé parce que je pense qu'il y a multiples raisons pour lesquelles on devrait étudier l'Ancien Testament, mais on va en voir quatre principales ce matin. Et puis, dans le fond, dans sa grâce, Dieu a voulu... qu'on n'ait pas juste 27 livres dans notre Bible, mais il a voulu qu'on en ait 66. Puis il y en a 39 dans l'Ancien Testament, qui est vraiment une grande partie des Écritures, et puis Dieu a voulu nous les donner. Et puis maintenant, c'est le défi qui est devant nous, c'est de comprendre le pourquoi Dieu nous a laissé ces 39 livres-là, qui occupent presque le trois quarts des Écritures. Donc, comme je le disais, on va couvrir les 17 premiers livres, le Pentateuque et puis les livres historiques. Puis, on va voir ensemble, on va essayer de répondre, avant d'arriver à la Genèse, répondre à trois questions. Pourquoi étudier l'Ancien Testament? C'est ce qu'on va voir ce matin. Deuxièmement, c'est quoi le message général de la Bible et plus particulièrement de l'Ancien Testament? Puis comment on doit interpréter les écrits de l'Ancien Testament? Donc, avec ces outils-là qu'on va répondre, entre autres, la semaine prochaine, j'espère que ça va nous équiper un peu pour mieux approcher les Écritures, mieux approcher l'Ancien Testament. Donc, ce matin, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Je pense, oui? Répéter les questions? OK, j'ai essayé de le faire. C'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que les gens ont quand même eu un bon résumé, mais je vais porter attention à ça. Merci. OK, c'est bon. Donc, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Première raison, puis on va aller dans les Écritures pour les voir, ces raisons-là, mais l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Je pense que ça, c'est la raison principale. Dieu a parlé. Dieu a parlé à travers l'Ancien Testament, et puis c'est la parole inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée 3, un passage qu'on connaît bien, mais juste qu'on va puiser un petit peu ensemble dedans, 2 Timothée 3, les versets 14 à 16. C'est Paul qui dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, Paul dit à Timothée, il dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et c'est quoi ces saintes lettres-là? Lorsqu'on pense, on situe un peu la vie de Timothée. Timothée avait à peu près, quand Paul lui dit ça, il avait peut-être 35, 40 ans, à peu près. Là. Tu sais, il est un jeune homme, à 40 ans, on est encore des jeunes hommes. C'est un jeune homme à qui Paul s'adresse. Et puis, en quelque sorte, se place à peu près, disons 70 ans après, 60 à 70 ans après la venue de Jésus. Donc, à ce moment-là, il y avait très peu d'écrits du Nouveau Testament qui circulaient. On s'entend que du temps de Jésus, les Écritures, lorsque Jésus réfère aux Écritures, on va le voir, c'était l'Ancien Testament, les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, lorsque Paul parle à Timothée, il dit, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais les saintes Écritures. » Ces Écritures-là, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Et Paul va dire que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Utile. Donc, utile. C'est utile pour toi. Tu as cru en Jésus, mais c'est utile pour toi. Même si c'est l'Ancien Testament, c'est encore utile. Utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour qu'on puisse être des hommes et des femmes de Dieu accomplis, propres à toute bonne œuvre. Donc, Paul dit, les Écritures, toutes les Écritures, c'est Dieu qui parle. Elles sont toutes importantes. Il en a, on ne doit pas en laisser de côté. Et à travers ça, Paul est en train de dire, attarde-toi à l'étude des Écritures, puis l'Ancien Testament aussi. Et puis, à travers ça, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre à connaître ton Dieu. Tu vas être convaincu, des fois, dans ton péché. La parole va te corriger, puis elle va t'instruire pour que tu puisses marcher pour la gloire de Dieu. Donc, l'Ancien Testament est nécessaire parce qu'à travers elle, on reçoit des instructions, et c'est la parole de Dieu que Dieu nous a laissée. On voit aussi dans Hébreux 1, les versets 1 et 2, que Dieu a parlé par les prophètes. Et les prophètes ont écrit, en grande partie, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, c'est les prophètes. En Hébreux 1, les versets 1 et 2, ça dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, Dieu a parlé par les prophètes. Et à travers les prophètes, il annonçait, il faisait plusieurs choses. On va puiser un peu plus ensemble les prophètes puis leur rôle. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait au peuple ce qui allait venir, mais surtout, il annonçait au peuple ses exigences, ses lois, ses commandements. Puis rappelait souvent le peuple à une repentance, appelait le peuple à une repentance pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans les voies de Dieu. Et Dieu a parlé à travers les prophètes. Et progressivement, Dieu a révélé des choses qui allaient venir. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu avec nous. Il est venu nous parler. Et ça me fascine. Lorsque on pense à l'époque dans laquelle on vit, puis que les gens, comme je disais tout à l'heure dans ma prière, les gens n'ont pas tendance à croire en Dieu. Donc, on est de plus en plus, je vais dire, soit agnostique ou athée. On rejette l'idée d'un Dieu où on ne croit pas que c'est possible de prouver que Dieu existe. Mais lorsque on s'arrête à ça, puis en tant qu'enfant de Dieu, on s'arrête à dire, Dieu, il n'est pas resté en silence. Des fois, ce n'est pas un Dieu déiste. Le Dieu déiste, là, c'est comme le déisme, ce qu'il croyait, c'était Dieu a créé les choses, puis finalement, il s'est en allé dans sa chambre, puis il a fermé la porte, puis il a laissé les choses aller. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu, c'est pas le Dieu des déistes. Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas seulement transcendant, mais c'est un Dieu qui est aussi immanent, qui est présent avec son peuple. Puis c'est un Dieu qui a parlé. Dieu a voulu nous parler. Puis lorsqu'on s'arrête à ça, on se dit, Seigneur, tu as voulu me parler. Tu n'as pas voulu me laisser dans l'ignorance. Tu as voulu te révéler à moi. Et là, fais juste réfléchir à ça. C'est comme souvent je l'amène dans ma relation avec mes enfants. Quand je veux parler à mon enfant, des fois, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Je veux lui donner le meilleur. Puis des fois, nos enfants, ils sont tannés de nous entendre répéter les mêmes affaires. Hein? Dieu a répété, mais nous autres aussi, on répète. Puis les enfants, ce que je cherche des fois avec mon enfant, c'est je veux te parler, je veux toucher ton cœur à travers ce que je te dis. Je veux pas que tu t'en ailles sur une mauvaise voie. Ce que je veux, c'est te donner les bons conseils pour que tu puisses marcher. Puis je veux que tu sois heureux. Mais lorsqu'on pense que Dieu a parlé de cette façon-là, mon ami, pourquoi je néglige la parole de Dieu? Seigneur, tu as voulu me parler. Tu es le Dieu de l'univers. Tu as fait de moi ton enfant, puis là, tu veux me parler, puis moi, je vais faire non, je ne veux rien savoir. Non, je ne veux pas faire ça. Je veux m'asseoir et dire, Seigneur, je veux être à tes pieds, je veux t'écouter, t'as parlé. Fais-moi entendre ta voix. Puis des fois, on l'entend. Il y a peut-être des gens qui disent, Seigneur, parle-moi. Ouvre ta Bible, puis lis à haute voix, comme dirait un prédicateur. Ouvre ta Bible, puis lis à haute voix, puis tu vas entendre Dieu te parler. Mais c'est ça que le Seigneur a fait, il a parlé. À travers les prophètes, et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a parlé, et Dieu nous parle à travers ces écrits-là. Ce qu'on voit aussi dans la révélation que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, c'est que les prophètes ont parlé de la part de Dieu, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. 2 Pierre 1:21. Pierre dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, les prophètes étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas comme dit, « Bon, mais je pense que Dieu veut dire ça, fait que je vais dire ça au peuple. » Non, il y avait parfois, Dieu, c'est directement adressé au prophète. On pense par exemple à Moïse qui était sur la montagne, puis Dieu a même écrit de son doigt sur les tables de pierre les commandements. Parfois, il s'adressait au prophète. Et puis eux, poussés par le Saint-Esprit, dirigés par Dieu lui-même, ont apporté cette parole-là au peuple et ont même mis par écrit ces paroles-là. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de leur propre chef. Ils n'ont pas décidé un jour de dire, moi, je vais dire ça, c'est ça que Dieu veut dire. Non, poussé par l'Esprit, parce que Dieu lui-même agissait en eux par le Saint-Esprit. Donc, les écrits qu'on a, on peut dire que c'est la parole de Dieu parce qu'ils sont inspirés, mais on sait aussi que les prophètes étaient poussés de la part de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Et l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Jésus l'a enseigné de cette façon-là aussi. Lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque Jésus enseignait au peuple, il ouvrait les Écritures au peuple devant le peuple dans la synagogue, il allait lire dans l'Ancien Testament. On voit un récit dans Luc 4, entre autres, Luc 4, les versets 16 à 21. C'est Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il vient de lire les Écritures. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous verrez, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Donc, Jésus prend l'Ancien Testament, il est en train d'expliquer, dire, « Voici tout ce qui a été annoncé. Ça est en train de s'accomplir à travers moi maintenant. » Et puis, aussi Jésus, évidemment, il a enseigné, lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, fait référence à la loi et même vient même un peu élever le standard de Dieu. On pense à des commandements, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Là, Jésus dit, ben, le fond, l'esprit de cette loi-là, c'est-à-dire, quand tu te convoites dans ton cœur, tu es en train de commettre l'adultère. Alors, Jésus vient augmenter, même souligner certains aspects de la loi de Dieu, mais il a pris l'Ancien Testament pour l'enseigner. Puis à la fin, dans Luc 24, verset 44, il parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis il leur dit, « C'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et lorsque Jésus fait référence à la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, il fait référence aux trois sections qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui est la loi de Moïse, le Pentateuque, les prophètes qui couvrent une partie des livres historiques de Josué jusqu'à Esther, et puis les écrits, les psaumes, qui étaient des livres poétiques et quelques prophètes qui étaient aussi, comme le prophète Daniel, qui se trouvait dans les écrits. Donc, les Juifs n'avaient pas le même ordre dans leurs écritures que nous, on a. Lorsqu'on prend la Septante, on voit qu'il y avait un ordre différent. Nous, on a comme quatre sections, le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Eux, c'était organisé différemment. Entre autres, les chroniques, nous, sont dans les livres historiques. Eux, ça se retrouvait dans les écrits. Mais Jésus fait référence à l'ensemble de l'Ancien Testament en disant, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, je vous l'enseigne. C'est moi qui viens d'accomplir ce qui était écrit dans ces écrits-là. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait à travers l'Ancien Testament? Dieu s'est révélé. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et donc, ça, c'est la première raison qu'on voit ensemble ce matin, la raison pour laquelle je devrais l'étudier, c'est que Dieu a parlé, et je veux l'écouter maintenant. Et je veux entendre comment ce plan rédempteur-là a commencé dans l'Ancien Testament, et puis c'est accompli en Jésus-Christ. Et on va voir aussi, deuxième raison, qu'on a besoin de l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Et une des raisons pour ça, c'est qu'il se trouve dans le Nouveau Testament toutes sortes de choses dans la culture juive que c'est mentionné dans le Nouveau Testament, des choses qui semblaient totalement comme normal ou dans cette culture-là, que nous, si on, on ne l'a pas. On ne vit pas dans cette époque-là. On ne comprend pas nécessairement c'est quoi exactement tout ça. Je pense à quelqu'un qui n'a jamais lu les Écritures, puis qui prend, mettons, Luc ou l'un des Évangiles, puis qui commence à lire ça. Il manque des morceaux, il me semble. C'est comme si tu commences. C'est comme quand tu. Maintenant, avec les services sur Internet de télévision comme Netflix, puis Amazon Prime, puis ces choses-là, on peut écouter en différé, hein, ou au moment qu'on veut, les émissions. Puis c'est comme si je commençais à la saison 2 d'une série. Tu sais, j'arrive dans une série, puis là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ça s'est arrivé? J'avais écouté, entre autres, j'avais commencé à écouter... Cynthia avait commencé à écouter le District 31, hein, la série québécoise, c'est bien populaire. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, elle a l'air à bien aimer ça, ça a l'air bon, on entend des bons commentaires, je vais commencer à l'écouter avec elle. Je commençais au milieu de la saison 2. Bon, avant de réussir à avoir un portrait, ça prend du temps. Puis là, j'ai dit, à un moment donné, il faudrait bien que j'aille écouter la première saison pour m'aider à comprendre. Je suis allé écouter la première saison. Ah! Oh! C'est pour ça que lui, il fait ça. Puis, tu sais, c'est difficile pour lui de dealer avec des enfants. On pense à un des inspecteurs. Là, ça met en place des éléments que ça m'aide à mieux comprendre. La même chose, quand je lis le Nouveau Testament. Si je commence au Nouveau Testament, bien, des fois, c'est mieux de commencer par là, surtout quand on est jeune croyant ou en recherche. On va plonger dans le temps, à l'époque de Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu apporter. Mais lorsque je grandis dans ma foi, il y a des choses que je veux mieux comprendre. Bien, je vais aller écouter la saison 1. Je vais aller lire l'Ancien Testament qui va m'aider à comprendre. Fait qu'il y a plusieurs choses. Entre autres, on voit Jésus au moment de la Pâque. Entre autres, dans Luc 22, il va célébrer la Pâque avec ses disciples. Ça ne l'explique pas du tout dans l'Évangile de Luc, c'est quoi la Pâque. Mais si je m'en vais lire l'Ancien Testament dans Exode chapitre 12, là, j'apprends, je comprends, ah, c'est ça, Dieu avait donné cette ordonnance-là au peuple juif d'observer la Pâque en mémoire de la délivrance du pays d'Égypte. Donc, il y a des choses qui se placent. La même chose avec la Pentecôte dans Acte 2. C'est une fête que Dieu avait donnée de célébrer. Il y a des pratiques religieuses, entre autres la circoncision. Hein? Jean-Baptiste, Luc 1, Zacharie amène Jean-Baptiste pour le circoncire. Pourquoi ils font ça aux enfants? C'est quoi cette affaire-là? Donc, on voit dans Genèse 17 que Dieu avait donné cette ordonnance-là à Abraham et au peuple, à ses enfants, d'observer. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, de la culture juive, qu'on peut mieux comprendre, dans le fond, de la culture juive qui se passe dans le Nouveau Testament, qu'on peut mieux comprendre lorsqu'on lit l'Ancien Testament. On apprend à connaître un peu plus les pratiques religieuses, entre autres aussi la signification du temple. Pourquoi le temple, c'était si important? Pourquoi Jésus s'en va dans le temple puis s'en va jeter les tables des vendeurs de pigeons? Pourquoi il y avait du monde qui vendait des pigeons dans le temple? Pourquoi il y avait du monde qui vendait ça? Ah là, je comprends que là, il allait au temple pour offrir en sacrifice des pigeons. Puis là, il y avait du monde qui tirait profit de ce rituel religieux-là ou cette pratique-là que Dieu avait placée. Puis il faisait de l'argent avec ça. C'est comme... Bon, je ne donnerai pas trop d'exemples, mais il y en a qui ont déjà vendu des affaires pour te faire croire que ça va t'aider, ils ont voulu faire de l'argent avec des éléments religieux. Donc, on voit ces choses-là dans l'Ancien Testament, ça nous aide à comprendre aussi les événements du Nouveau. Et puis surtout, les attentes envers le Messie. On voit que les disciples avaient des attentes envers le Messie. Il arrive à la fin de sa vie, après sa résurrection. Jésus est sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, en acte 1. Puis là, OK, c'est beau, tu es mort, tu es ressuscité. Est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas rétablir Israël? Mais on attendait un Messie qui allait nous délivrer là, de l'Empire romain puis de tous ceux qui nous assaillent depuis des décennies, des siècles. On attendait un Messie qui venait nous délivrer de ça. Là Jésus dit, pas maintenant. Mais pourquoi il y avait ces attentes-là envers le Messie? Il y avait des prophéties qui annonçaient ça, mais qui ne se sont pas toutes accomplies du temps de Jésus. Il reste des choses à venir. Mais il y a ces attentes-là que... le peuple juif avait envers le Messie, nous amène à comprendre un peu plus aussi pourquoi il y avait de l'incrédulité chez, Il y avait la dureté du cœur, évidemment, là, mais l'incrédulité, parfois, chez les gens qui étaient sceptiques. C'est-tu vraiment le Messie? Messie qui va venir, pas de même qui va être. Mais Dieu est venu accomplir sa parole d'une façon différente de ce que les gens s'attendaient. Et puis, on le voit, entre autres, les attentes qu'il y avait envers Israël en étudiant l'Ancien Testament. Troisième raison, l'enseignement des apôtres trouve son fondement dans l'Ancien Testament. Lorsque Paul va défendre le salut par la foi seule, dans Romains 4, Paul va dire, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc, Paul prend l'argument de dire, le salut par la foi, ça, là, c'est pas nouveau, cette affaire-là. Le salut par la foi, c'est comme ça qu'Abraham a reçu la justice. C'est comme ça qu'Abraham a été justifié. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et donc, on voit que le fondement de l'enseignement des apôtres, entre autres avec le salut par la foi, était fondé sur ce que Dieu accomplissait déjà avec Israël. On voit aussi que dans le Nouveau Testament, le salut est accordé aux nations, pas juste à un peuple en particulier. Lorsque Dieu a révélé son plan de salut puis qu'il a fait une alliance avec Israël, en quelque sorte, Israël a pris un peu ça pour lui puis il a dit, bien, ça, c'est le salut, c'est mon Dieu, puis tous les autres, vous êtes des étrangers, puis Dieu ne vous a pas choisi. Mais c'était quoi l'intention de Dieu en choisissant Israël? C'était pas juste que ça demeure à Israël, mais que c'est un salut qui allait s'étendre dans les nations. Puis on voit même que certains ont été sauvés, des étrangers d'Israël ont été sauvés dans l'Ancien Testament. Mais cet accomplissement-là du salut aux nations, qu'on voit entre autres dans Galates au chapitre 3, Dieu l'avait annoncé à Abraham dès le début de l'histoire d'Israël, lorsqu'il a fait alliance avec Abraham. Dans Genèse 12, il dit, il a donné une promesse à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, tu vas être une source de bénédiction, puis je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Déjà, Dieu annonçait à travers Abraham qu'il y a un salut qui allait venir, qui s'adresse à toutes les nations. Et nous, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'à travers Jésus-Christ, qui est la descendance d'Abraham, Dieu veut bénir toutes les nations. Dieu veut que toutes les nations puissent goûter à sa bénédiction d'être en relation avec lui par le salut qu'il a accompli en Jésus-Christ. D'autres éléments qu'on voit dans le Nouveau Testament, l'appel à vivre dans la sainteté, entre autres dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16, Pierre dit, vous avez besoin d'être, maintenant que vous êtes des chrétiens, maintenant que vous avez accepté Christ, maintenant, vous avez, conformez-vous pas à ce que vous étiez avant, parce que vous avez été appelés à Dieu. Puis il y a quelque chose qui n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est vous allez être saints parce que je suis saint. Vous êtes mon peuple, vous êtes appelés à être saints. Et c'est ce que Dieu avait déjà enseigné dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis saint. Dans Lévitique 11, 44. Donc, à cause que Dieu est saint, son peuple doit être saint. C'est un enseignement qui avait déjà commencé avec Israël et c'est là-dessus que les apôtres se sont fondés pour dire maintenant, comme croyants en Jésus-Christ, comme chrétiens, on est le peuple de Dieu maintenant. On a été inclus avec le peuple de Dieu et on doit être saints nous aussi, on doit marcher dans la volonté de Dieu et se préserver pour sa gloire. Donc, ça, c'est certains enseignements des apôtres qui était fondé sur l'Ancien Testament. Et lorsque je les lis dans le Nouveau Testament, là, ça m'aide, après ça, lorsque j'ai lu l'Ancien Testament, ça m'aide à mieux les comprendre. C'était quoi les exigences et qu'est-ce que ça veut dire exactement de marcher dans la sainteté, d'être saint. Et on voit là, ces choses-là développées dans l'Ancien Testament. Donc, quatrième raison, et on va terminer avec ça, une raison qui est quand même importante, puis je pense que ça vient nous rejoindre aujourd'hui, nous, à notre époque, maintenant. Je pense que toutes les choses que j'ai dit avant aussi s'appliquent à nous, mais là, ça devient plus concret, on dirait. Les histoires puis les personnages de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous. lorsque les apôtres ont enseigné, entre autres Paul, a mentionné que l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction à nous aussi. On l'a vu dans 2 Timothée 3,16, mais Paul le mentionne particulièrement dans Romains 15, au verset 4. Il va dire, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction à nous aussi. Les événements de l'Ancien Testament sont arrivés pour nous servir d'exemple. Je vais lire 1 Corinthiens 10, les versets 6 et 11. « Or, ces choses qui sont arrivées avant dans l'Ancien Testament, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Il y en a qui, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Mais là, Paul dit, eux autres se sont éloignés de Dieu. Alors, prenez exemple sur eux, puis ne faites pas ça. OK? Il continue, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, la relation entre Israël et Dieu, entre certains rois et Dieu, on le voit dans, entre autres dans les livres poétiques, la relation que David avait avec Dieu, plus personnelle, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, tout ça est arrivé pour nous servir d'instruction à nous. Et ça arrive, c'est arrivé souvent que Dieu m'a parlé personnellement à travers l'Ancien Testament, soit en lisant un passage des prophètes ou en lisant les psaumes. Je trouve qu'on voit un peu plus la relation entre Dieu et son peuple à ce moment-là. Puis c'est comme Dieu me parle souvent de sa bonté, de sa grandeur, qui est un refuge pour moi. Dans les écrits de l'Ancien Testament, Dieu se révèle de cette façon-là envers Israël. Puis maintenant, il est mon refuge à moi aussi. Il est mon secours. À lui, je peux élever la voix, crier à lui, puis chercher en lui mon refuge. Donc, il y avait d'autres passages que j'avais notés. Vous pourrez aller les voir, le temps avance. Mais ça, c'est des choses qui sont des exemples pour nous. Puis en même temps aussi, les prophètes ont révélé ce qui allait venir, le salut en Jésus-Christ, 1 Pierre 1, 10 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges plaisirent plonger leur regard. » Donc, les prophètes ont annoncé des choses. Ils savaient que ça parlait du Messie. Ils savaient que ça allait... Il allait souffrir. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Il ne comprenait pas tout. Il l'avait écrit pour nous. Il annonçait ces choses pour nous. Et lorsqu'on voit que lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament que Dieu avait annoncé d'avance puis que c'est son plan qui s'est accompli en Jésus-Christ, on comprend mieux aussi le plan qu'il avait de venir restaurer toutes choses. De pas juste restaurer sa relation avec Israël, mais sa relation avec l'homme et avec le monde à travers Jésus-Christ. Donc, ce matin, on a vu des raisons pour lesquelles on devrait étudier l'Ancien Testament. Je pense, juste pour terminer, faire un sommaire de ce qu'on a vu, un résumé de ce qu'on a vu. Dieu se révèle. Dieu a parlé. Et à travers l'Ancien Testament, je lis la parole de Dieu. Cette parole inspirée que Dieu a apportée par le Saint-Esprit. Maintenant, ce que je veux, c'est la connaître, parce que Dieu se révèle à travers ça. Je veux connaître mon Dieu, je vais aller dans l'Ancien Testament, parce que Dieu me parle à travers ces écrits-là aussi. Il nous permet de connaître l'origine de la doctrine des apôtres, le fondement de leur croyance, comme on a vu, et puis ça a été donné aussi pour notre instruction. Donc, toutes ces raisons-là, et d'autres, je dirais, je pourrais en nommer d'autres, sont toutes des raisons pour lesquelles on devrait étudier davantage l'Ancien Testament. Je pense que pour répondre des fois aux questions des gens autour de nous, les questions qui sont soulevées aussi, de mieux l'étudier, des fois, ça peut nous aider à partager notre foi. Dire, ben oui, c'est vrai, Dieu a demandé à son peuple d'exterminer des nations, mais voici le contexte, voici pourquoi il est demandé de faire ça. Puis il expliquait de mieux comprendre pour nous-mêmes, ça peut nous aider des fois à répondre à des objections lorsqu'on partage l'Évangile. Ça peut être, c'est édifiant pour nous, c'est des exemples sur lesquels on peut s'appuyer, mais il y a plein de choses, plein de raisons. Puis maintenant, mon désir, c'était juste de vous communiquer ce désir-là, de dire, « Hey, négligeons pas ce que Dieu a mis là. » Puis que dans les prochaines semaines, vous y revenir. Dire, « Hey, c'est important, là, je vais revenir. On va l'étudier ensemble, on va l'étudier en Église. Puis je veux vous encourager à revenir dans les prochaines semaines. » Parce que je sais, la nature humaine fait que, « Ah, le premier cours, j'ai pas trippé le premier cours. Peut-être la semaine prochaine, on va peut-être en manquer. » Puis là, vers la fin de la session, on a moins de gens. Puis ça, c'est la réalité. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Que le Seigneur puisse nous encourager à être ensemble. Puis aller étudier la parole ensemble pour qu'on puisse grandir ensemble à l'image de Christ à travers cette étude-là. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Merci pour la parole de l'Ancien Testament. Seigneur, combien de fois j'ai été édifié de découvrir comment tu es un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, parce qu'on te voit agir directement avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puis on voit que tu avais tout planifié d'avance pour accomplir notre salut en Jésus-Christ. Et lorsqu'on te découvre à travers ces écrits-là, Seigneur, on apprend à te connaître. Puis on apprend à connaître notre Dieu, puis que notre Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Parce qu'on a trouvé en toi le salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, aide-nous à désirer ta parole, désirer en recevoir instruction, parce que la récompense est grande pour qui les observe. Seigneur, parle à nos cœurs tout au long de la session, même parle à mon cœur, à moi aussi, Seigneur, qui souvent veut passer à côté des bénédictions que tu nous donnes dans ta parole, et qu'ensemble on puisse être fortifiés en toi, à cause que c'est toi qui parles à travers ta parole. Et Seigneur, viens nous bénir aussi pendant cette célébration qui va suivre. Dispose nos cœurs à te louer, à t'adorer, puis à recevoir encore une fois l'instruction qui vient de toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.